Jacqueline.
Bonjour Tiffany. Eh bien, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Comme cela ne vous aura pas échappé, nous sommes maintenant au mois de novembre. Or, dans ce mois, il y a, comme chaque année, le 25 novembre, journée qui, outre celle de la Sainte Catherine, selon le calendrier religieux qui continue de nous guider, est la journée que l'ONU a officiellement déclarée Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, dans l'espoir d'éradiquer ce fléau de par le monde. En participation à cette lutte, nous lirons donc aujourd'hui des extraits d'un essai paru en 2021. Son autrice est une jeune historienne et essayiste spécialiste du travail des femmes, membre de l'Observatoire économique des femmes de la Fondation des femmes, Lucille Pétavin, P-E-Y-P-A-V-I-N. Son essai s'intitule « Le coût de la virilité », sous-titré « Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ». Voici ce qu'elle nous dit dans le prologue et l'introduction. Écrire un livre sur le coût de la violence masculine, c'est écrire un livre contre les hommes, m'ont objecté certains quand j'évoquais mon projet. Alors, au risque d'énoncer l'évidence, je le dis ici explicitement, non, bien sûr, les hommes ne sont pas la cible de cet essai. Nous verrons que les hommes ne sont pas naturellement violents ou malveillants. Ma volonté est plutôt de remonter à l'origine de cette violence et de déconstruire les mécanismes qui en rendent les hommes majoritairement responsables. S'il n'existe, selon les connaissances scientifiques les plus récentes, aucune prédisposition génétique qui les y conduise, le problème ne viendrait-il pas nécessairement des sociétés qui valorise et perpétue les valeurs viriles de force, de compétition, de résistance à la douleur et des mécanismes éducatifs qui façonnent les comportements poussant les hommes à être violents ou dangereux. La virilité, en tant que construction sociale, est donc la véritable cible de cet essai. Prendre conscience des méfaits de la virilité et agir contre eux est une démarche humaniste impérative qui s'inscrit dans le sens d'une évolution pacifiste universelle. Femmes et hommes, nous sommes tous concernés par ce combat en tant que victimes des comportements virils, mais aussi comme contribuables, supportant par nos impôts les dizaines de milliards d'euros dépensés chaque année pour faire face à ce phénomène, et bien sûr en tant qu'êtres humains endurant les souffrances physiques et psychologiques occasionnées. Nos politiques de justice et de sécurité, toujours plus coûteuses, contiennent tant bien que mal les comportements délétères des hommes sans pour autant s'attaquer véritablement à leur cause. Je voudrais lever ici un autre malentendu relatif à la question de l'influence du facteur social. Selon certains de mes contradicteurs, les comportements violents et asociaux, ce serait en effet pas le fait, entre guillemets, des hommes en général, mais, entre guillemets, de certains hommes issus de milieux défavorisés. Je leur demande alors quel est le point commun entre ces délits. Deux points. Forcer son conjoint à avoir un rapport sexuel, viol conjugal, agresser sexuellement une camarade lors d'un week-end d'intégration en école d'ingénieur sous l'emprise de l'alcool, vendre de la drogue au pied d'un immeuble, commettre des escroqueries financières, prendre le volant au retour d'une soirée alors qu'on est alcoolisé, commettre un viol en réunion, dégrader des biens publics un soir de match de football, provoquer un accident de la route mortel pour ne pas avoir respecté la limitation de vitesse. Réponse, nous verrons que les auteurs de ces délits sont dans leur immense majorité des hommes. Ils sont pourtant issus de milieux sociaux, de classes d'âge, de niveaux d'études et de situations géographiques très hétérogènes. Ainsi, dans tous les milieux sociaux, ce sont les hommes qui commettent la plupart des délits et des violences sans exception. Le facteur le plus déterminant dans les infractions à la loi est donc bien, et de loin, le sexe masculin de leur auteur. En France, les hommes sont responsables de la majorité des comportements asociaux. Ils représentent 83% des 2 millions d'auteurs d'infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viol, 84% des auteurs présumés d'accidents routiers mortels, 92% des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens et aux personnes au collège, 95% des mis en cause pour vol violent avec arme, 96% des violences au sein d'un couple, 99% des clients prostitueurs et, in fine, 96,3% de la population carcérale. Ces chiffres peuvent surprendre, car cette surreprésentation des hommes comme principaux auteurs de comportements asociaux n'est presque jamais questionnée par notre société. Qu'il s'agisse de rapports officiels ou d'articles de presse portant sur la délinquance ou les comportements à risque, le gouffre statistique qui existe entre les hommes et les femmes sur ce sujet est quasi systématiquement ignoré. Il n'est jamais précisé que les auteurs sont en grande majorité des hommes. Par ailleurs, il est difficile de rendre compte de ce phénomène dans sa totalité. Mon ambition est de tenter d'estimer le coût financier de l'ensemble de ces préjudices pour la société et donc pour chaque citoyen et citoyenne. C'est ce que j'appelle le coût de la virilité. Nous verrons qu'en France, les comportements virils masculins sont responsables chaque année de 7 milliards sur les 9 milliards d'euros du budget total de la justice, de 8,6 milliards sur les 13 milliards d'euros du budget total des forces de l'ordre. À cela, il faut ajouter le coût humain et social de ces infractions à la loi, puisqu'il y a derrière ces actes des vies brisées, des souffrances physiques et psychologiques, des pertes de productivité, un sentiment d'insécurité ayant des répercussions sur les secteurs économiques les plus divers. Au total, j'estime à 95,2 milliards d'euros par an le coût des comportements virils sur l'économie française. Ce chiffre est faramineux. Il s'agit d'un montant une fois et demi supérieur à celui du déficit public annuel de la France. Mais alors, pourquoi nos sociétés modernes restent-elles aveugles face à de tels enjeux ? Plusieurs facteurs expliquent ce silence. Tout d'abord, la nature, entre guillemets, fait souvent office, consciemment ou inconsciemment, de justification. Les garçons seraient naturellement turbulents et violents. Il serait donc impossible de remédier à cette situation. Ensuite, les hommes sont, depuis des siècles, considérés comme seuls représentants du genre humain, comme nous le rappelle si bien la langue française. Homme désigne à la fois le sexe et l'espèce, ce qui fait de leur conduite une norme universelle, représentative des comportements de l'ensemble de la population. À l'inverse, être une femme, avec tous les attributs qui lui sont associés, douceur, sensibilité, instinct maternel, etc., a longtemps été vue comme une spécificité. Nos réactions sont d'ailleurs souvent ambivalentes face aux violences commises par les femmes. Celles-ci choquent du fait de leur rareté, induisant l'idée d'un aspect contre-nature, tout en étant mises en avant et scrutées de manière disproportionnelle à la réalité. Il y a ainsi, c'est un comble, davantage d'études sociologiques ou statistiques portant sur les violences spécifiques des femmes que sur celles des hommes. Il est courant, dans un débat sur la violence, de voir surgir l'argument selon lequel les femmes ne sont pas en reste et en sont aussi capables. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables de violence, mais elles le sont dans des proportions très limitées par rapport aux hommes. À l'âge adulte, les femmes sont souvent associées à la violence psychologique. Elles sont régulièrement jugées manipulatrices ou perverses. Elles peuvent bien entendu s'en rendre coupables, mais les chiffres disponibles qui concernent les violences psychologiques au sein du couple indiquent qu'elles en sont surtout les premières victimes. Elles auraient été 217 à être poussées au suicide par un conjoint ou un ex-conjoint en 2018. Dans les faits, tout au long de leur vie, les femmes commettent beaucoup moins de violences que les hommes. Le manque d'objectivité face à la réalité pose question. D'où nous vient cette tendance à tolérer, voire à légitimer l'inacceptable venant des hommes et à condamner plus durement, d'un point de vue moral, les violences commises par les femmes. Il semble que nos sociétés modernes refusent inconsciemment la grille de lecture homme-femme concernant les violences. Le milieu social sert de critère de référence dans les programmes de lutte contre la délinquance. Il n'est jamais rappelé que les femmes issues de milieux défavorisés ne participent pas, pour l'immense majorité d'entre elles, au trafic et aux incivilités auxquelles s'adonnent leurs homologues masculins. Il semble donc indéniable que le premier critère caractérisant les auteurs de comportements asociaux, à savoir leur sexe, est presque systématiquement passé sous silence. Le fait qu'il existe des femmes responsables de violences ou de conduites à risque similaires à celles commises par les hommes prouve que les comportements asociaux ne sont pas le propre d'un sexe. Les causes sont-elles physiologiques et le fruit d'une nature masculine immuable ou bien culturelle, largement induite par l'éducation et donc à ce titre un acquis? Cette question rebattue est absolument cruciale, car de sa réponse découle la possibilité ou non d'une évolution de nos sociétés vers un futur moins viril et moins violent, et j'ajoute, vers une société apaisée. C'est la fin de cette citation. Et l'autrice de conclure, selon le sous-titre de son essai, ce que la France économiserait si les hommes étaient éduqués pour se comporter comme les femmes. Eh bien, pour connaître les solutions qu'elle propose, il faut lire le livre jusqu'au bout. Voilà.
Merci Jacqueline. Et peut-on connaître les sources qui ont motivé cette lecture?
Oui, alors mes sources, c'est bien entendu le livre lui-même, Le coût de la virilité, Lucille Pétavin, édition Anne Carrière, 2021. Et puis un autre livre qui s'appelle Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, d'Olivia Gazalet, Gazale, philosophe, édition Robert Laffont, 2017.
Merci Jacqueline et bonne journée à toutes et à tous.
Bonne journée à vous, au revoir.